David Val, qui sort en cette rentrée littéraire La vie profonde, donc un journal de bord à bord d'un bateau en exploration scientifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre objet littéraire ?
La vie profonde est le journal de bord que j'ai tenu lors d'une mission scientifique à bord du Pourquoi pas qui visait à aller explorer un site hydrothermal à 1700 mètres de profondeur sous la surface de l'océan, l'océan Atlantique. Ces sources hydrothermales, donc c'est vraiment entre Europe et Amérique, ces sources hydrothermales sont parmi les derniers territoires inconnus de la planète. On les a découverts très tard, en 1977. 9 ans après avoir posé le pied sur la Lune, c'est dire quelque chose de l'inaccessibilité de ces environnements marins profonds qui sont plongés dans le noir sous une pression à écraser des troupeaux entiers d'éléphants dans lesquels on a découvert ce qu'on pensait impossible auparavant, de la vie. Ce sont des territoires qui réunissent des conditions qu'on ne pensait absolument pas propices à l'éclosion de la vie, et pourtant on a trouvé une vie très étrange qui s'y développait. On y a aussi trouvé malheureusement des richesses minérales, et cette expédition visait donc à poursuivre notre connaissance de ces oasis marins très peu connus, abyssaux, ainsi qu'à tester la résilience de la faune des profondeurs au cas où une exploitation malheureuse viendrait à bouleverser ces écosystèmes très fragiles. Mais ça, les résultats des enquêtes scientifiques l'ont prouvé, dont on sait qu'une exploitation serait très dommageable pour l'avenir de toute la planète et donc de notre espèce.
Un journal de bord qui nous alerte sur l'état de la planète. Le livre est fluide à lire, mais aussi extrêmement dense. On voit énormément... Il s'inscrit dans une tradition littéraire extrêmement forte. Jules Verne, Gulliver, Homère, Dante... Est-ce que vous avez grandi dans une bibliothèque ?
Oui, j'ai grandi dans une bibliothèque, c'est vrai. J'ai même grandi dans une famille de bibliophiles, donc je lisais très vite des livres connus, en vieille édition, des livres totalement oubliés. Le week-end, je gardais même, quand j'étais ado, pour me faire un peu de sous, enfin un salaire en livres, la librairie ancienne d'un des amis de mon père. Donc oui, j'ai grandi au milieu des livres, et j'ai grandi au milieu des histoires que ces livres me racontaient. Et la littérature de voyage, en tout cas au sens large, depuis l'Odyssée, mais Gilgamesh en fait aussi partie, jusqu'aux expéditions, jusqu'à Nicolas Bouvier, c'est vraiment des auteurs qui m'ont fondé. Je ne suis pas du tout scientifique. Quand on m'a proposé d'accompagner une mission qui jusque-là n'avait été chroniquée que par des scientifiques, jamais par un écrivain, ça m'a fait un effet fou, un plaisir incroyable. J'étais même très intimidé parce que l'écrivain que j'étais pouvait peut-être se livrer à ce genre littéraire qu'il avait toujours rêvé d'initier, qui étaient ses journaux de voyage, ses récits de voyage.
Tout à fait, c'est vrai que dans votre livre, vous tracez extrêmement bien les liens et les ponts entre science et art, mais c'est vrai que pour tout un chacun, ce n'est pas forcément évident. On peut croire que c'est aux antipodes, l'art c'est fluide, c'est libre, la science c'est, comme vous le décrivez dans le livre, très carré, protocolaire. Donc vous êtes retrouvé à être un petit laborantin, alors que vous êtes un petit dramaturge, grand dramaturge même. Comment ça s'est passé ? Comment vous êtes adapté ? Vous étiez à l'aise ?
Alors, c'était une expérimentation totalement immersive. C'était vraiment même une expérience d'écrivain, un atelier d'écriture, une résidence d'écriture totalement immersive, puisque je prenais la place d'un assistant biologique, et donc les scientifiques qui étaient à la base de ce projet, d'emmener avec eux des artistes sur le bateau. Et un écrivain m'avait réquisitionné l'après-midi pour aider à ce qu'il faisait sur le bateau, à savoir du prélèvement de faune. Donc l'après-midi, j'aidais au prélèvement de la faune, et le matin, j'interviewais les scientifiques, les marins, les techniciens, et j'écrivais ce journal de bord jour après jour. J'avais été choisi... Bon, il est vrai que je travaille avec des scientifiques. Je suis auteur associé à Océanopolis à Brest. Donc, sans être scientifique, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Ça a été quand même, je pense, quelque chose d'important pour les guider dans leur choix qu'ils ont fait de m'inviter à bord. Mais c'est vrai que travailler avec des scientifiques, c'est un vrai échange, parce qu'il faut que nous trouvions un vocabulaire commun. Comment est-ce que ce que je raconte doit être mêlé aussi parce que je suis écrivain? Donc à la fois, le journal de bord, il est très pratique, on y mêle les découvertes scientifiques, on y décrit comment les scientifiques travaillent, ce livre est un hommage au travail des scientifiques, mais on y mêle aussi son quotidien, ses affects, ses questions, ses émotions, et ces émotions sont énormes, parce que, je le rappelle encore, on découvre un monde inconnu, et il y a plus de 36 000 explorations à notre époque qui découvrent encore des territoires inexplorés.
En parlant de découvertes, effectivement, vous vous comparez extrêmement souvent ces fonds marins avec du coup ces créatures benthiques.
La faune benthique, c'est qui vit au fond des eaux. Ça vient du grec benthos. Oui, ça, je l'ai appris, je le savais.
Oui, voilà, donc benthos, benthique. Donc vous comparez souvent ces fonds marins avec l'espace, en fait. Vous avez commencé en parlant de la Lune.
Tout à fait. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que quand on voit ces environnements, alors nous, on n'y descendait pas, le bateau était au-dessus de ces sources hydrothermales, et c'est le ROV Victor, le submersible téléopéré depuis la surface. Donc nous étions dans un centre de téléguidage qui retransmettait en direct les images de Victor, dans une salle qui ressemblait vraiment à une salle de vaisseau spatial. On avait plein d'écrans qui nous retransmettaient les images sous différents angles différents et sous différentes couleurs de ce que l'on voyait sous l'océan. Donc déjà, la technologie fait plus penser à une exploration spatiale qu'au voyage de Christophe Christophe Colomb, par exemple. Il faut dire aussi que les paysages que l'on voit n'évoquent pas du tout les paysages océaniques. Ce sont des paysages plongés dans une noirceur absolue. Les fumeurs fument. Donc on a l'impression qu'on est vraiment... C'est haut cônes qui dégagent une sorte de fumée noire. Donc on a l'impression qu'on est à l'air libre. Il n'y a pas de soleil, la roche est très présente et on voit des animaux vraiment aux formes totalement invraisemblables. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'observer un paysage extraterrestre, une faune extraterrestre. Et j'ajouterais de plus que ce n'est pas que les émotions qui me font dire ça, puisque cette vie s'est développée selon des modèles qui étaient ignorés jusque-là par la biologie traditionnelle. Chimiosynthèse, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Donc les animaux ont développé des stratégies de survie et de développement qui étaient jusque-là inconnues. L'étude de cette faune permet désormais aux astrobiologistes de modéliser grâce à eux la vie extraterrestre. J'ajouterai aussi que beaucoup des appareils qui sont testés dans nos profondeurs servent ensuite dans l'espace.
Quel rapport à la technique que vous avez pu observer? Comment vous le ressentez?
De toute façon, ces environnements, c'est les abysses. Et d'ailleurs, on le voit même dans tous les films, la science-fiction, la littérature populaire a vraiment travaillé là-dessus. Les abysses, les êtres vivants de surface ne peuvent pas y pénétrer parce qu'il y a une pression. Vous vous rendez compte, sur un poisson de 10 cm carrés, s'exerce une pression d'un Airbus. Donc sur un être humain, c'est carrément tout un aéroport. Donc en fait, on ne peut pas, sans le secours de la technologie, sans le secours des machines qui nous permettent de nous garantir des pressions et des liquides toxiques, c'est plein de fluides toxiques aussi, on ne peut pas découvrir ces environnements-là parce que nous ne sommes pas adaptés. Donc aller dans les abysses, c'est comme aller dans l'espace. Nous avons besoin d'outils extrêmement particuliers, extrêmement, et d'une technologie très avancée pour pouvoir y aller.
On ne pourra jamais les saisir directement, forcément un média, quoi. Il y a plusieurs questions qui me viennent. C'est trois choses, en fait. D'un côté, vous répondez à celle qui vous intéresse le plus, mais la question de la perspective, la prospective, comment on perçoit les choses, qui est reliée aussi aux cinq sens. Vous faites beaucoup appel aux descriptions aux cinq sens. Et en dernier, la question des frontières et des limites.
Là, on touche vraiment une limite de l'être humain, là, par exemple. Effectivement, dans ces profondeurs, on sent bien. Alors, on les dépasse pas parce que ça reste notre monde, mais alors on les touche. Enfin, je veux dire, on touche à l'inconnu. Je sais pas si on peut dépasser nos limites, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose d'insondable. D'abord, on connaît que 5% de ces territoires abyssaux. Donc, il reste encore beaucoup à découvrir et c'est pas sûr qu'on les découvre d'ailleurs tous un jour. Effectivement, le rapport au sens, et vous avez raison de le préciser, il est d'abord sur un bateau, le temps ne s'écoule pas du tout pareil qu'à terre parce que nous sommes dans un désert. Alors, certes, bleu et pas jaune, mais un désert tout de même. Nous sommes en pleine mer, il n'y a pas de terre à l'horizon, nous sommes trop loin au large pour qu'il y ait des oiseaux dans le ciel. C'est un espace de transit, c'est un espace où l'on ne voit pas de vie et où on travaille le jour comme la nuit. On n'a plus ces alternants jour-nuit, les jours se ressemblent tous, donc très vite le temps se dilate, la durée n'est absolument plus la même. Et puis ce qu'on voit, effectivement, on le voit par l'intermédiaire de filtres. Le filtre de la fatigue, le filtre d'un univers saturé par la vie à bord et par justement la machine. Nous voyons par les yeux du Rov Victor, par les yeux d'un robot que nous téléguidons, certes, que nous dirigeons, mais et par écran interposé. Donc c'est vrai qu'on est dans un état de perception extrêmement singulier qui favorise en plus, je trouve, l'expression poétique, parce que du coup on est obligé de trouver des analogies, on est obligé aussi de faire avec, nous sommes déjà dans l'interprétation. Percevoir, c'est toujours interpréter, mais là c'est interpréter encore davantage. Et l'écriture était, pour moi, c'était vraiment, en tant qu'écrivain, c'était des défis permanents. Parce qu'on manque d'analogie, on manque de vocabulaire pour décrire l'indescriptible, ce qui est très difficile puisque ça ressemble pas à grand chose de ce qu'on connaît. Bien sûr, ça ressemble un peu, mais. Et donc, comment est-ce qu'on décrit effectivement ces environnements marins profonds, ces écosystèmes, ces animaux, ces paysages? Comment est-ce qu'on décrit l'état dans lequel on est quand on les découvre? Moi, j'étais de garde de minuit à 4h du matin. Je me levais, je dormais de 21h à 23h45, puis je me recouchais ensuite. Donc on le découvre aussi dans un état de fatigue et de demi-sommeil. Comment est-ce qu'on parle de ses perceptions, de ses émotions, de ce qui traverse le corps, de ce qui traverse l'esprit? C'était vraiment très intéressant comme travail d'écriture. On se trouve toujours confronté à la limite des mots dans cette limite de l'humain aussi.
Vous avez mentionné donc le fait qu'il y avait un rapport au temps spécifique, mais un rapport à l'autre spécifique. On est sur un bateau, c'est exigu, on est 75, on travaille ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on a une couchette ensemble. On n'en a pas marre à un moment? Comment on gère la vie?
Moi, alors, on n'est pas indépendant. C'est pas du tout le mode de vie moderne sur l'individualisme.
Comment les années internalisées, en fait, au fond, le rapport à l'intimité, à l'autre, la solitude, alors, l'interdépendance.
Ça reste des moments. Alors, ça veut pas dire grand chose si je dis 25 jours, parce que 25 jours, on les vit pas pareil. Mais c'est vrai que c'est une durée qui est à la fois très longue et très courte. C'est vrai que c'est, comme je disais, on est dans un univers très saturé. Tout le monde travaille beaucoup. Il n'y a pas de moment de pause parce que les pauses ne serviraient à rien. Je veux dire, il n'y a rien à faire sur un bateau. Vous voyez l'horizon, mais enfin l'horizon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu toujours le même. Ce bleu qui s'étend à perte de vue le jour et cet abîme terrible la nuit quand le ciel est couvert, ou alors cette voie lactée, cette nuit étoilée, mais qui est absolument invraisemblable. On comprend d'ailleurs vraiment ce que c'est qu'une nuit quand on est au milieu de la mer. Enfin, c'est invraisemblable. Mais enfin, néanmoins, effectivement, c'est pas du tout... on aurait des pauses qu'on n'en voudrait pas. On se shoote même au travail parce que c'est que de l'émerveillement. Enfin, je veux dire, chaque plongée du Rov Victor, chaque expérience scientifique, c'est un peu une première fois. Si vous voulez, ce ne sont que des débuts, ce ne sont que des initiations, ce ne sont que des découvertes, ce ne sont que... Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'intimité. On a une petite salle de sport à bord. On peut courir sur un tapis, il y a même une petite piscine. Je raconte ça à un moment dans le livre. Alors, c'est un peu paradoxal. On est au milieu de l'océan, océan aquatique. Et on a une toute petite piscine de 2 mètres sur 2. On s'attache avec un élastique pour nager à l'infini devant l'océan. Alors, c'est l'infiniment petit mêlé à l'infiniment grand. C'est une expérience de vie particulière, oui, physiquement, on le sent. Ça a été très fort pour moi, j'ai pas eu de difficulté à vivre cette promiscuité, j'ai eu du mal à rentrer, j'ai eu du mal à retrouver la vie quotidienne. Quand on vit dans l'extraordinaire et l'émerveillement permanent, c'est comme une drogue, c'est très difficile ensuite de s'en retrouver sevré.
On n'a plus beaucoup de temps, il y a un gros sujet sur la géopolitique, le rapport à la science, le bateau est français, on est dans des eaux portugaises, puis après l'histoire du Canada, enfin... La conclusion de votre première partie qui est très intéressante, vous dites, et c'est très paradoxal, vous dites les choses sont plus fortes que les mots. Votre travail, c'est d'écrire des mots. Vous discréditez...
Je pense qu'un écrivain se rend très bien compte de cela. Tout le drame de l'écriture et tout son génie, c'est quand même qu'effectivement, nous cherchons sans cesse à exprimer des choses qui nous échapperont toujours.
Il y a une phrase de Voltaire qui me revient dans son discours sur l'homme qui dit « Le secret d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire ».
Ce qui veut bien dire que notre métier est justement de laisser des choses à l'ombre des mots, entre dans l'espace des mots. Et c'est peut-être ça, moi, que je préfère dans l'écriture. J'espère toujours que le mot va exprimer quelque chose, mais que je sais que quand même, le mot est moins fort que la chose. Encore une fois, j'ai recité un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Heidegger, et qui dit le questionnement, c'est la piété de la pensée. Et je pense que c'est parce que nous ne pouvons pas tout dire, que les mots ne peuvent pas tout englober, que la question reste possible. Et c'est parce que nous nous questionnons que nous écrivons.
Dernière question, ce sera par rapport, c'est métrologie, la mesure, oui, le micro, le macro, le grand, le petit, on pourra en parler longtemps, mais je vois un exemple très intéressant, malgré tout ce qui vous sépare du monde sous-marin, vous arrivez à faire cette introspection, il me semble, avec une doctorante qui étudie des crevettes, il y a la question que leur seul but dans la vie c'est de survivre, mais pourquoi faire? Il y a ce truc-là qui vous
très
a...
Très anthropomorphique, oui, ouais, ça c'est vraiment...
L'étranger à son paroxysme, mais on arrive quand même à tirer de l'anthropomorphisme.
Pas de l'anthropomorphisme, enfin, de la communion. Pour moi, c'est de la communion. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc. Oui, effectivement. La vie s'est donné un tel mal pour arriver jusque-là. Vraiment, elle a créé des formes de vie tellement étonnantes. Ça dit, en plus, c'est très beau de voir cette vitalité, cette énergie créatrice, cet élan vital incroyable qui gagne jusqu'aux profondeurs, qui est une démonstration de la puissance de la vie tout de même, et qui crée des formes de vie qui sont, extrêmement étonnante parce que vivant en symbiose, elle se serre les coudes. Les animaux souvent abritent des colonies de bactéries qui mangent, digèrent pour eux, qui font plein de choses pour eux. C'est vraiment une solidarité, c'est une mise en relation des différents organismes absolument extraordinaire. Mais enfin, les crevettes qui sont sur les pentes de ces fumeurs noirs ont des pattes mais doivent rester sur un champ extrêmement réduit, ne pas trop s'approcher du fumeur sinon elles brûleraient, ne pas trop s'en éloigner sinon elles auraient trop froid. Elles se nourrissent, elles sont des millions à s'entasser sur des toutes petites surfaces. Et puis c'est vrai que je me disais, mais enfin, toute cette énergie, tout cet élan, toute cette créativité pour en arriver à des formes de vie qui sont finalement extrêmement, enfin, spécialisées. Et ça m'angoissait beaucoup. Je me dis, mais alors, et une scientifique me dit à côté de moi, et c'était extraordinaire qu'elle me dise ça, elle me dit, mais tu sais, peut-être que, ça je le dis dans le livre, peut-être que contrairement à nous, ces créatures réalisent notre rêve, elles sont peut-être tout simplement heureuses d'être là et bien d'être là. Et donc elles ont cette capacité que l'être humain n'a pas malheureusement. moment, de pouvoir être ici et maintenant, sans chercher à être ailleurs et plus tard ou avant. Et ça, ça a été, oui, ça m'a relié à la... au chant du paradis, la fin du paradis de Dante, dans l'Empyrée, quand effectivement il décrit, il essaye de décrire l'impalpable, l'invisible, l'indicible, l'ineffable, l'abstrait, ce qu'on ne voit pas là, tout ça, et qu'il montre ce cœur de dame bienheureuse autour de la gloire divine, ce, étant pour l'éternité dans la béatitude de la contemplation. Alors c'est vrai que ça ressemble au paradis et les abysses ne sont pas tout à fait esthétiquement du même genre, mais c'est vrai qu'on tisse comme ça des analogies qui, loin d'être artificielles, loin d'être élégantes, sont au contraire des choses très profondes qui, je trouve, sont des... Voilà, on a des révélations, vraiment des révélations très profondes. C'est pour ça que ce livre s'appelle « La vie profonde », c'est-à-dire que ça ne parle pas que de la vie dans les abysses, ça nous relie à nos profondeurs, à nous. Et c'est ce que j'ai vraiment découvert lors de cette expédition.
Je me disais, vous n'êtes ni marin ni scientifique et vous êtes sur un bateau qui fait une expédition scientifique. Vous avez eu des questions de légitimité avant d'embarquer ou...
J'ai des questions de grâce absolue.
Est-ce que vous êtes demandé, est-ce que je suis légitime en fait?
Non, je me suis posé une autre question. Ah non, je ne me suis pas posé. C'est pas par orgueil ou par vanité. Non, mais c'est parce que j'étais étonné. Je me disais, bah, j'étais très... Bon, d'abord, j'étais très...
Non,
puis c'était mon rêve. Enfin, je veux dire, depuis gamin, je rêve de faire des trucs comme ça. Donc, mais j'étais, par contre, je me sentais extrêmement redevable. Je me mettais une pression d'enfer. Parce qu'effectivement, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vraiment. Mais une fois que j'y étais, bon, bah voilà, je me suis dit, allez, j'y vais. Bon, je voulais pas décevoir, c'est sûr.
Puis ils vous l'ont bien rendu. Au bout d'un... On voit dans le livre qu'une routine s'installe, que tous les midis, 11h, les habitants du bateau attendent votre compte-rendu de la veille. Ça devient vraiment quelque chose d'important. On voit aussi, peut-être le mot de la fin, quand même, ces scientifiques, quand on ne fréquente pas de chercheurs et de scientifiques, on s'imagine un milieu très procédurier, très froid, mais on voit quand même qu'il y a des grandes touches d'humour. Le bateau s'appelle Pourquoi pas, le chant s'appelle Lucky Strike. Est-ce qu'on a rigolé sur ce bateau?
Oh, beaucoup. Oui, on riait. Puis moi, il y a des scientifiques avec lesquels je suis devenu par la suite ami. Quand on vit une aventure très forte comme ça, il est évident qu'on a toutes les émotions s'y mêlent, y compris la légèreté, l'humour, le plaisir d'être ensemble. Ce livre, c'est aussi un livre écologique, bien sûr, sur la défense de ces environnements marins profonds. C'est aussi un livre d'hommage aux scientifiques et à leur travail.
On vous laisse, vous devez préparer la croisière d'Esparron de Verdon qui aura lieu demain. On va vous libérer pour entrer en réunion. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici demain? Et on a hâte de découvrir cette croisière.
Je suis très heureux d'être à Manosque. Souhaitons-nous un très bon festival.